Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Le dieu Apollon déverse sur les Grecs une pluie de flèches empoisonnées. Pour calmer sa colère, Agamemnon doit accepter de libérer sa captive Harpina, fille d'un prêtre d'Apollon, et de la rendre à son père. Mais en échange, il veut la captive d'Achille, Briseis. Achille est obligé d'accepter que Briseis lui soit enlevée. Mais il décide alors de se retirer du combat. Il pleure de rage et de douleur. Sa mère, Thétis, supplie Zeus de donner la victoire aux Troyens tant que son fils ne sera pas vengé. En haut des marches du palais, un homme, très grand, attendait Ulysse et Nestor. L'escorte troyenne les avait conduits sans un mot jusqu'à lui. C'était Hector, l'aîné des fils de Priam, le vrai chef de cette armée troyenne. Ulysse connaît sa réputation de guerrier courageux, mais il ignore sa valeur en tant qu'homme. Les émissaires grecs n'ont rien à craindre, car celui qui les attend ainsi est un combattant dont le code d'honneur est supérieur à tout. La stature de colosse d'Hector impressionne fortement Ulysse, qui ne l'a jusqu'à présent aperçu que de loin dans la mêlée du champ de bataille. Ce qui l'impressionne encore plus, c'est son regard doux, cette barbe rousse qui lui mange le visage. Sans son casque, sans son armure, le grand Hector garde son allure princière. Droiture et loyauté émanent de lui. « Si nous avions un tel chef de guerre, se dit Ulysse, nous aurions bien de la chance. » Ce qu'il ignore à cet instant, c'est qu'Hector, en l'observant, vient de faire le même constat. Cet homme trapu, beaucoup plus petit que lui, aux allures presque rustiques de paysan, dégage une grande noblesse. « Il y a de la droiture, de la loyauté en lui, pense Hector. Si nous avions un tel homme à nos côtés, la victoire pourrait nous sourire. » Un courant de sympathie traverse les deux chefs, pourtant ennemis. Ulysse prend la parole. « Ô grand Hector, nous venons te proposer un marché. Deux hommes veulent garder Hélène comme compagne, son mari Ménélas et son amant, votre frère Paris. Pour eux, nous nous entretions depuis 9 ans déjà. Accepteriez-vous de conclure une trêve et que Ménélas et Paris règlent cette querelle en un combat singulier ? De la réponse d'Hector va dépendre la suite de la guerre de Troie. Hector n'hésite pas un instant. Il ne consulte personne, pas même son père, le vieux roi Priam qui vient d'entrer, pas même Paris lui-même. C'est une proposition honnête et responsable. Je l'accepte. À cette minute même, je déclare une trêve. Plus de batailles, plus de morts. Et que ce combat singulier désigne le camp vainqueur de cette guerre qui n'a que trop duré. Les poignées de main qu'échangent les Grecs et les Troyens portent les premiers espoirs de paix depuis que la guerre a éclaté. Quelques heures plus tard, Ulysse et Nestor quittent Troie. Mission accomplie. Ils repartent vers leur campement, heureux, le cœur léger. Ulysse suit un aigle du regard, loin, loin, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit point noir dans le ciel. Le ciel bleu. Les rayons du soleil sur le visage. Ulysse ferme les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvre, le sourire du sage Nestor à ses côtés fait écho à son propre sourire. L'un et l'autre comptent en silence les vies humaines qu'ils viennent de sauver. Juchée tout en haut des remparts de Troie, une femme regarde la délégation grecque repartir avec anxiété. Une voix aux accents tendres lui glisse à l'oreille. « Ne prends pas cette mine soucieuse, ma belle Hélène. Ton heure n'est pas venue de me quitter. » Hélène sourit faiblement à Paris. Elle jauge son bel amant du regard. Malgré ses années de guerre, il reste le berger qu'il a été autrefois, fort avec ses poings mais maladroit dans le maniement des armes. Tandis que son ancien mari, Ménélas, est un redoutable guerrier. « J'ai peur, » dit-elle simplement. Hécube s'approche. Elle a entendu les derniers mots d'Hélène. Elle sait que son fils est plus habile en amour qu'au combat. Elle garde le silence. Hélène semble perdue dans la contemplation des lignes ennemies. On aperçoit de loin en loin quelques bûchers qui fument encore. Bûchers grecs, bûchers troyens. Chacun y fait brûler ses morts. Hécube accompagne le regard d'Hélène. Elle chuchote doucement. Au moins, pendant cette trêve, le sang cessera de couler. Hélène frissonne. J'aurais mieux fait de mourir plutôt que d'être la cause de ce carnage. Et elle ajoute, les yeux noyés de pleurs. Je souffre pour les Troyens, les miens désormais, et je souffre pour les Grecs, mes frères de sang. Mais je ne retournerai jamais auprès de Ménélas. Jamais. Des éclats de soleil blessent les yeux. Ils se reflètent de manière aveuglante dans l'alignement d'armes posées à même le sol. De part et d'autre, des épées abandonnées, les Grecs se tiennent alignés. D'un côté les Grecs et de l'autre les Troyens. Deux hommes arpentent l'espace qui sépare les deux groupes, pour l'instant désarmés. C'est Hector et Ulysse, occupés à mesurer et délimiter le terrain du combat. Une fois cette tâche accomplie, les deux chefs de guerre se lancent un long regard presque complice. Puis d'un geste du menton, Ulysse fait signe à Hector que tout peut commencer. Les soldats se taisent, immobiles. Hector retourne son casque et tire au sort pour savoir qui des deux adversaires portera le premier coup. La chance sourit à Paris. Le voici qui paraît, revêtu d'une armure étincelante et d'un bouclier majestueux. Ses jambes sont protégées par de lourdes plaques métalliques et de son casque jaillit une queue de cheval, symbole de l'habileté troyenne à dresser les chevaux. Face à lui, Ménélas est tout aussi lourdement armé. Des regards de haine sont échangés entre les rivaux. Là, au pied des remparts, chacun le sait, l'un des deux doit mourir. Voilà que Paris lance son javelot le premier. Celui-ci rebondit sur le bouclier de Ménélas sans le transpercer. C'est au tour de Ménélas d'attaquer. La lance du roi de Sparte transperce le bouclier de Paris, déchire sa tunique et un peu de sang se met à couler. Un sang noir et épais qui imbibe le sable. Une grande clameur s'élève dans les rangs grecs, aussitôt calmée par un geste autoritaire d'Agamemnon. Il souhaite un combat loyal. Paris a perdu de sa superbe, on le sent, hésitant, presque titubant. Ménélas se rue sur lui, l'épée en avant, mais son arme se brise en quatre morceaux lorsqu'elle frappe le casque de Paris. Quelle étrangeté ! Chacun retient son souffle. Ce combat prend des allures surnaturelles. Ménélas, furieux de se retrouver sans armes, saisit alors Paris par la queue de cheval de son casque, le déséquilibre d'un coup brutal et le traîne au sol derrière lui. La courroie du casque étrangle le jeune Troyen. Chacun le voit, suffoqué, suffoqué. La lanière de son casque lui serre férocement le cou. Il va mourir, étranglé. La main d'acier de Ménélas ne relâche pas sa prise. À cet instant, surgit une femme venue de nulle part. Elle est très belle, habillée de longs voiles blancs et la taille prise dans une ceinture de pierrerie. Elle brandit une fine épée et tranche d'un geste rapide la lanière du casque. Paris est libéré. Autour de cette femme, un nuage de poussière s'élève, dissimulant les deux combattants. Un instant plus tard, le nuage retombe. Ménélas réapparaît couvert de poussière blanche, mais Paris a disparu, il s'est volatilisé. Aphrodite, c'était la déesse Aphrodite. Un murmure parcourt les rangs. Regardez, crie une voix dans la foule. Tous suivent le doigt pointé en direction des remparts de Troie. Deux silhouettes se détachent. On devine la première, c'est une femme. On reconnaît la deuxième, c'est un homme. La femme est enveloppée de voiles bleus qui flottent autour de ses cheveux blonds. C'est Hélène. Le soleil se reflète de manière éblouissante dans l'armure et le casque de l'homme. C'est Paris. Quelqu'un crie alors. La déesse de l'amour a renvoyé ce lâche dans les draps de sa belle. Un grand rire moqueur secoue les rangs grecs. Le seul qui ne rit pas, c'est Ménélas. Il hurle de rage de voir sa victime lui échapper. Ulysse et Hector échangent à nouveau un regard presque complice. Il faut coûte que coûte préserver la trêve. Alors sans réfléchir, les deux guerriers s'avancent rapidement au milieu des armées, la main tendue l'un vers l'autre. Trop tard. Une flèche part en direction de Ménélas. C'est Pandare, un Troyen qui vient de tirer. Oh, il ne l'a pas fait exprès. Quelqu'un se tenait derrière lui, quelqu'un qui lui a pris le bras et a dirigé son arme, quelqu'un qui a décoché la flèche à sa place. Lui, Pandare, ne voulait pas rompre la trêve. Mais la volonté des dieux est plus forte que celle des hommes, et leur dispute toujours aussi vive. Ainsi, Aphrodite vient de sauver Paris, le Troyen. Alors furieuse, Héra, toujours hostile à Paris, a demandé à Athéna d'intervenir. Et c'est elle, la déesse de la sagesse, mais aussi de la guerre, qui a poussé ce pauvre Pandare à tirer. Ensuite, tout est allé très vite, trop vite. Palamède, qui guettait le moment de faire échouer la trêve d'Ulysse, s'est précipité sur Pandare et il l'a tué net. Derrière lui, Athéna, encore elle, l'a aidé et l'a protégé. Le sang a coulé à nouveau sur le sable. La trêve était rompue. La tentative de paix a échoué. Comment tout cela va-t-il finir? Un ciel gris plombé s'est installé sur la plaine de Troie. À nouveau, les jours de combat succèdent aux jours de combat. Les Troyens, vexés par l'abandon de Paris, font assaut de bravoure pour livrer bataille. Les Grecs résistent péniblement et cèdent chaque jour du terrain. Les pertes en hommes sont nombreuses. L'absence d'Achille ne peut plus durer. Un soir, devant le visage soucieux d'Ulysse, à qui elle tend son bol de lait de chèvre, la vieille Oumariaca lui dit « J'ai entendu raconter qu'Achille prépare son départ. Il fait charger ses navires. Il s'apprête à rentrer chez lui avec ses troupes. » Ulysse sursaute comme piqué par une guêpe. « En es-tu sûre, la vieille ?»«
Tout à fait certaine. Je crois qu'il faut que tu interviennes, et vite. » Sinon, les Grecs perdront cette guerre. »
Le roi d'Ithaque gratifie Oumariaca d'un sourire de remerciement et se précipite auprès d'Agamemnon. Il trouve le chef des armées sous sa tente en galante compagnie, mais ce n'est pas Briséis qu'il tient dans ses bras, c'est Harpinia. Devant le regard ahuri d'Ulysse, qui n'y comprend plus rien, Agamemnon daigne lui donner une explication.
« Eh oui, ainsi va la vie, mon ami. »
Une fois rendu à son père, Harpinia s'est aperçue que je lui manquais et que je l'avais toujours bien traité, et elle a décidé, toute seule, de revenir auprès de moi. Le sourire triomphant d'Agamemnon n'irrite même pas Ulysse, car cette nouvelle lui donne une idée. « Alors, je peux aller dire à Achille que tu n'as jamais approché sa bien-aimée Briséis ? Que tu es prêt à la lui rendre, n'est-ce pas ?» Agamemnon, que l'absence d'Achille au combat embarrasse, répond avec empressement.
« Eh bien, pourquoi pas ? Je rends sa liberté à Briséis. Et si tu arrives ainsi à ramener Achille parmi nous, eh bien, bravo !»
Parmi les femmes qui s'activent autour des marmites, Ulysse n'a aucun mal à trouver Briséis. Il ne l'a pas revue depuis son enlèvement à Achille, et il la trouve amaigrie, le visage creusé par le chagrin. Il la contemple, un peu en retrait. Elle coupe des herbes et des oignons, qu'elle ajoute à la viande qui mijote sur le feu. Ses gestes sont sûrs, précis, mais elle semble absente, ailleurs. Lorsqu'elle lève la tête pour saluer Ulysse, son regard semble vide.
« Briséis, ah, je suis heureux de te revoir. Je viens te chercher. Agamemnon t'autorise à retourner auprès d'Achille. »
La jeune Troyenne hausse les épaules. D'un ton amer, elle répond. « Quelle importance, maintenant, puisque Achille ne m'aime pas. » Ulysse comprend quel feu intérieur la ronge.
Il s'exclame. Mais tu te trompes. Achille ne t'a jamais trahi volontairement. Il n'avait pas le choix. Pour sauver les soldats de la mort, pour calmer la colère des dieux, il a été obligé d'accepter. Briseïs a croisé les bras devant elle. Visage buté, fermé. Elle n'en est que plus belle. Ulysse pose la main sur son bras. « Tu ne me crois pas ? Alors suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Après, si tu n'es pas convaincu, tu seras libre de partir où bon te semble. » Briseïs accepte. Ulysse l'entraîne du côté du campement d'Achille. Un redoutable laisser-aller règne parmi les hommes. Les armes sont entassées dans un coin. Casques et armures traînent un peu partout. Les soldats jouent aux échecs, aux cartes. Tout est sale, presque à l'abandon. Tout respire l'ennui et l'inaction. Briseïs pose un regard interrogateur sur Ulysse. Que se passe-t-il donc ici? Achille a interdit qu'il participe au combat. Tu l'ignorais? Lui dit Ulysse. Elle n'a pas le temps de répondre, car il vient de poser un doigt sur ses lèvres pour lui intimer le silence. Des sanglots se font entendre, puis des soupirs. Cela provient d'une tente derrière laquelle il se trouve. Deux hommes se parlent. « Oh, tu ne peux pas continuer ainsi à pleurer nuit et jour. Console-toi » disait l'un. L'autre, à la voix grave, répond en soupirant. « Je n'y peux rien, je suis inconsolable. En perdant Briseïs, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher à mon cœur, à part toi, Patrocle. Toi, qui es comme mon frère, tu peux le comprendre. » En entendant ces mots, Briseïs a sursauté. Ulysse lui lance un regard amusé. Son visage s'est transformé, éclairé de l'intérieur. Ainsi l'homme qu'elle aime l'aime aussi. « Je ne me le pardonnerai jamais !» continue Achille. Les larmes de son amant font jaillir celles de Briseïs. Elle regarde Ulysse avec reconnaissance. Le visage de Pénélope se superpose un instant à celui de la jeune Troyenne. Que fait-elle en ce moment? À quoi occupe-t-elle ses journées? Qui parle avec elle? Qui rit avec elle? Ah, je donnerais tout l'or du monde pour être l'oiseau perché sur la branche au-dessus de sa nuque. Pour être le vent qui joue dans ses cheveux, pour être la vague qui lèche ses pieds lorsqu'elle se promène sur le rivage. Mais il est là, enraciné dans cette plaine poussiéreuse, et la femme en pleurs qui le regarde n'est pas la sienne. Alors Ulysse caresse la joue de Briseïs, il lui fait signe d'entrer seul sous la tente, puis il s'éloigne discrètement. Il a réussi à rassembler ce couple, mais il reste inquiet. Le retour de Briseïs va-t-il suffire à ramener Achille au combat ?